Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour une édition spin-off Clone Wars qui sera consacrée à l'arc d'Ondara, ou communément appelé aussi l'arc du Général Krell, qui couvre les saisons 4, épisodes 7 à 10. Je suis David Dupont et aujourd'hui, pour discuter de ces épisodes, je suis accompagné de Faye Fanel.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour messieurs.
Et de Sylvain Morgan.
Salut.
Donc, des épisodes de Clone Wars qui sont totalement centrés sur les clones. Ça nous change un petit peu d'Obi-Wan et d'Anakin. Donc on va parler...
Et d'Ahsoka.
Et d'Ahsoka, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai lu dans un rapport de bataille qu'Ahsoka aurait dû être présente, mais je sais pas où, hein, parce que je ne la vois nulle part dans l'épisode. Mais on va en parler.
Elle est repartie peut-être, je sais pas, moi, elle avait des courses.
On ne sait pas, et puis en plus, Clone Wars, c'est pas dans l'ordre, alors du coup, des fois, on ne sait pas. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on ne va pas parler de l'épisode de Mortis dans cet épisode, alors qu'on vous avait annoncé ça dans l'épisode précédent. C'est juste pour des raisons techniques et d'intervenants. On le fera tout dans une autre émission, donc potentiellement la suivante, pour pouvoir avoir les meilleurs intervenants possibles. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui Sylvain, parce que Sylvain, lui, préfère les épisodes avec les clones.
C'est ça, tout à fait. Mais t'es quand même pas en train de dire que Faël et moi, on est les typés, là.
Je pense pas.
Ah non, c'est...
Attention, hein. Sinon ça va
chier. J'ai l'équipe de spécialistes, tu vois, c'est pas l'équipe B.
Oh, de spécialistes.
On prend les, les meilleurs pour chaque mission, tu vois, dans cet esprit-là. Alors du coup, avant de commencer, qu'est-ce que vous avez en WhatsApp, Star Wars ou Geekery, Faël?
Moi je continue toujours à rattraper mon retard sur les romans, et donc là je viens de commencer le dernier roman sur Tron. Pour l'instant ça commence bien, on va voir ce que ça va donner, hein. Et voilà, puis après bon, pas mal d'autres choses, mais c'est pas du Star Wars donc.
Et alors Sylvain?
De mon côté, moi j'ai craqué, mes excuses à tout le monde, j'ai réussi à avoir un site Trooper dans son emballage cadeau de la bonne convention, machin, je sais plus trop laquelle.
Salaud.
Ouais, je sais, mais j'ai pas pu résister. Je m'en veuillais pas, mais c'était un Trooper, il était en armure. Voilà, j'ai craqué. Sinon, j'ai eu aussi un Dark Maul, mais dans l'emballage normal, la collection des Black Series, là. Archive.
Et du coup, c'est quelle version de Maul? C'est un standard épisode 1?
Ouais. Avec son double sabre. Il est pas mal. Le seul défaut que je trouve, en fait, c'est sa cape. C'est un peu ridicule parce que la cape est pas en tissu. Elle est en plastique.
Ouais. C'est dommage.
Et elle est fixée à sa tête. Donc, t'as une tête de rechange, mais uniquement si tu peux lui retirer sa cape. C'est très con.
Ouais, c'est un peu bizarre.
C'est assez bizarre. Sinon, niveau geekery, je me suis fait offrir. J'ai mon meilleur pote qui m'a offert une PS4 hier pour mon anniversaire. Donc,
ça
voilà.
Va.
Ah, bah tu vas pouvoir jouer à Battlefront.
Ah, bah là, je suis en train de défoncer Spider-Man et le God of War.
Oh, c'est pas mal.
Bah,
pour
tu vas
commencer.
Pouvoir te faire. Tu l'avais fait la campagne solo de Battlefront 2?
Je l'ai, ouais, mais comme j'ai une Xbox One, ouais. je l'ai dessus.
Tu l'as fait comme ça. Ok. Et moi en fait je vais vous parler non pas d'une geekerie Star Wars parce que je vais pas avancer non plus dans les romans comme Faye au final. Moi j'ai reçu un jeu de plateau en Kickstarter qui s'appelle Nemesis, et en gros Nemesis c'est Alien le jeu de plateau. On est dans un vaisseau, on se réveille, on sait pas trop ce qui se passe, toutes les pièces sont un peu inconnues, et il y a des aliens vraiment type xénomorphes qui sont là et qui essayent de nous bouffer pendant que nous on essaye genre de réparer le vaisseau. C'est un jeu très cool.
Ah bah ça donne envie.
Voilà.
Ouais. Comment t'as dit qu'il s'appelait déjà?
Nemesis,
ok.
Et il est disponible donc en Kickstarter, mais Funforge devrait l'avoir bientôt, peut-être pour Noël, parce que les figurines sont très très belles. Mais si c'est juste le jeu qui vous intéresse, il existe Tabletop Simulator. C'est un jeu de vidéo, ça coûte une dizaine d'euros sur Steam, et vous pouvez jouer à plein de jeux de plateau, et notamment des choses Star Wars. Je pense notamment X-Wing miniature. J'ai pas encore testé, mais peut-être que je testerai ça. Et donc du coup, le jeu est jouable aussi sur ça. Ça avait permis de plateforme de développement. Donc ça aussi, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Moi, je vais essayer de faire une partie via ce système-là prochainement, donc je vous redirai.
Okay,
voilà.
Ça t'a coûté combien ?
Ça m'a coûté le même prix que ton Seed Trooper, potentiellement. Ouais, ça m'a j'avais un peu craqué. Je crois que la boîte de base chez Funforge devrait être dans les 80 euros. Moi, j'ai payé un peu plus, parce que j'ai l'extension, et en plus, elles ont été peintes.
Beaucoup moins cher que ça.
Mais je trouve que ça vaut le coup. Pour le beau jeu que c'est, avec l'ensemble des figurines, des cartes, c'est une boîte qui... Pour ceux qui voient ce genre, c'est deux boîtes de... C'est les aventuriers du rail côte à côte. Enfin, l'une sur l'autre.
C'est pas mal, c'est un gros jeu.
C'est un gros jeu. Voilà. Alors, au niveau de nos émissions récentes, dans Star Wars en direct, nous avons donc, c'était hier pour nous l'enregistrement de Star Wars 172, La Rumeur Éternelle, où on parle de rumeur comme quoi Obi-Wan serait en série. Donc quand vous écouterez, peut-être que vous aurez la confirmation. Et en littérature, le dernier, c'est Throne Treason, le littérature 36, où Faye justement a commencé.
Ouais, j'ai hâte d'écouter le podcast après.
N'oubliez pas que nous avons aussi des boutiques, si vous voulez acheter tous des goodies en France ou au Québec. Notamment des tasses en France. Et on remercie nos partenaires Meet Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science Fiction, et le Space Trash Show. Et sans plus attendre, nous passons en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark!
Alright, stand by!
Reprenons au niveau de ces épisodes, donc épisodes 7 à 10. Les titres sont L'obscurité sur Ambara, Le Général, Insubordination et Le Carnage de Krell. Un beau titre, pas du tout spoiler, pour finir. Ce soir en...
Bon, ni Le Général, ni Insubordination. Il n'y a que le premier qui est mystérieux, le titre des trois autres épisodes donne quand même la couleur et le thème principal du truc.
De toute façon, il suffit de voir la tête du général pour direct comprendre que voilà, le gars est pas super sympathique. Hein.
Ouais. Il est pas tout bien dans sa tête.
C'est vrai que t'as pas l'impression que c'est genre le mec qui tient un burger, quoi.
C'est ça.
Pas du tout.
Non, mais... Le mec, il est Jedi, parce qu'il y a un souci, là. Comment il a passé les tests, moi, j'aimerais savoir.
Bah, on y reviendra, on y reviendra un peu. Là. On attaque par le résumé.
Exactement,
d'abord.
Exactement. Sylvain, fais-nous donc un résumé dont tu as le secret.
Ah bah, donc là, je vais pas faire de résumé épisode par épisode, puisque c'est tout un arc. Les quatre épisodes quasiment se suivent à la minute. À la seconde, donc pour faire un résumé global de l'arc. Donc tout se passe sur la planète où il fait super beau et super chaud. Umbara, bala, bala, machin.
Umbara.
Voilà, Umba, Umba. Donc c'est une planète qui est a priori tout le temps plongée dans le noir, dont même les habitants sont obligés de porter des casques, sinon ils crèvent.
On y reviendra dessus.
Ouais, c'est ce qui est paradoxal parce que les clones peuvent retirer leur casque et le général n'a pas besoin d'appareil respiratoire. Ça, on n'a toujours pas compris hein, au bout de plusieurs années.
Non, j'ai l'explication, mais je laisse te faire le résumé.
Ouais. Donc, on suit Anakin et Obi-Wan qui vont encore prendre d'assaut une capitale, machin, tout ça. Le classique, hein. Anakin avec Rex et la 501. Obi-Wan avec Cody et j'ai oublié le nom du bataillon, mais vous les aurez reconnus, ils sont peinturés en orange. Sauf que comme par hasard, Anakin, il est rappelé par Palpatineau pour rentrer Dardar chez à Coruscant. Il y a dû refaire la moquette, la peinture est pas fraîche, tout ça. Donc bah, Anakin, il dit au revoir à Rex et aux troupeurs de l'Ain 501, et il se barre en laissant le commandement à un nouveau général Jedi, Pong Krell, qui ne joue pas au Pong, a priori, malgré ses quatre bras.
Il serait imbattable.
C'est la même race que C'est la même race que Drex, sauf que lui, il sent pas la frite. Donc voilà, au début, tout se passe bien, sauf qu'il a pris. On peut dire que le général Krell, il a un tout petit balai dans le cul. Et en plus, il n'est pas spécialement copain-copain avec les clowns. Donc, en gros, pour résumer, sa stratégie, c'est vous allez devant, on continue. Rien à foutre si vous y laissez la vie, c'est devant. C'est comme les soviétiques à Stalingrad. C'est soit tu vas devant et tu meurs, soit si tu recules, c'est tu prends une balle. C'est la stratégie de Krell. Donc, à Rex et aux autres gars de la 501, hein, il y a aussi le arc de peur 5. J'allais l'oublier, alors qu'il y a quand même un matricule facile.
Ouais.
À se rappeler, et en plus c'est écrit sur sa gueule, réellement. Il commence quand même à douter de la méthode du Jedi, hein, du général, surtout que le général a un record personnel, hein, il a sa petite médaille, le brevet, machin. C'est lui qui a le plus grand taux de perte de clone trooper. Donc disons que l'ambiance, elle n'est pas spécialement au beau fixe, hein, durant tous ces épisodes, surtout, on l'a dit, hein, le général, sa méthode, c'est vous avez tout droit, les gars. Rien à foutre si vous y restez tous. Donc, il y a un peu de tension. Rex et Five essayent quand même. Parce que maintenant, t'as un arc trooper qui est quand même censé faire un peu ce qu'il a envie. Hein, et quand même un commandant capitaine clone. Rex, quand même, c'est eux qui sont censés diriger les troupes sur le sol, mais Krell leur a bien fait comprendre que leur avis, il en a strictement rien à carrer. Donc il y a plein de pertes, des plans, des stratégies de Krell à la con, Five et Rex qui tentent le tout pour le tout, pour remplir la mission sans sacrifier la moitié des hommes. Ça passe pas super bien au bout de Krell, à tel point que...
au goût de Krell, hein, parce que les missions sont quand même plutôt un succès, je veux le dire.
Oui, mais elles sont un succès alors qu'il y a 90% de pertes, quoi. Si,
non, mais je parle de...
C'est ça.
Je voulais dire, avec le plan de Five et de... Enfin, ceux qui vont aller donc voler des vaisseaux pour pouvoir, contre les ordres de Krell, mais revenir shooter les chars grâce aux vaisseaux pris à l'ennemi... Et ça, c'est pas. C'était plutôt un succès.
Bah, c'est parce qu'ils se rebellent. S'ils écoutaient le gars, ils n'auraient rien fait.
Parce que justement, c'est dans le. C'est dans.
C'est contre les
ennemis. C'est dans.
Non, mais de toute façon, le voilà, plan du mec, c'est
contre les
vous
ordres.
Êtes des boucliers humains, je vous balance, allez, fais votre boulot, et puis youpi, quoi. C'est...
Non, c'est même pas ça. Il le dit clairement, ils sont pas les couilles. C'est des clones, c'est de la. C'est des.
Oui, c'est des choses pour lui, voilà. C'est...
Ouais, c'est deux choses.
Voilà, c'est des choses.
Ils les appellent pas soldats, voilà. D'ailleurs. Entre eux, ils s'appellent soldats, et lui, il les appelle juste clones. Il n'y a aucun respect.
Clone et numéro de matricule. Et numéro de matricule. C'est la seule chose.
Ils refusent les surnoms.
C'est la seule chose qui passe. Donc, forcément, il y a des tensions. Après la jolie capture qu'un coup de Rex et de... Non, Rex reste en arrière, mais ouais. C'est Five et l'autre taré avec son canon, avec sa chain gun, qui arrive à capturer à eux deux une base aérienne, à piquer des vaisseaux et à mettre une tôle aux autochtones.
Ouais.
Krell n'est pas spécialement joyeuse, même s'il a... Parce que, prenez ma bonne dame, hein, les clones, ils se sont rebellés. Et donc, Krell ordonne aux soldats de la 501 d'aller capturer la capitale. Hein. C'est donc A4, vous allez capturer Paris ou Montréal. Je vais vous donner une idée de la connerie absurde qu'ils mettent.
Ah, mais c'est des élites ou c'est pas des élites? Oh, il faut savoir.
Oui, mais bon, capturer non, A4 pour essayer de capturer Paris, je suis pas sûr non, que ça passe.
On sent bien
que si tu mets des commandos Uber, ça va pas spécialement bien se passer.
Non, mais c'est clair que son agenda, c'était pas forcément le fait qu'ils allaient en revenir vivants, on va dire.
Donc, ce qui fait que y a de plus en plus de soldats clones qui se rebellent, qui en ont ras le cul du général 4 bras. Et ça va aller jusqu'à l'immanquable. Jusqu'à. Non, l'immanquable, qu'est-ce que je dis ? Non, inéluctable, ça c'est Thanos. Jusqu'à
la rébellion, la mutinerie même.
Jusqu'à, oui, voilà, c'est ça. Une mutinerie de certains soldats pour la capture
du général.
De la, non, c'est avant.
La capitale d'abord.
C'est avant ça, pour la capture
de la base aérienne avant. En fait. Parce que c'est Obi-Wan qui doit faire la capitale.
On l'a déjà dit.
Ouais, mais ils reprotègent la base après.
Ils doivent.
Bon,
l'objectif. Protéger parce que les autochtones font une contre-attaque. Elle est assez vite contrée. Sauf que alors que les clones et Krell sont en train de s'engueuler, il y a un clone. Ça doit être Cody ou un clone de l'escadron. De Cody, justement, je cherche.
Oui.
Qui appelle Krell en leur disant qu'ils ont un problème, il y a des autochtones qui ont piqué des armures de troopers et qui commencent à tirer dans les rangs. Donc, Krell ordonne à Rex et à des clones d'aller récupérer, d'aller tout simplement à la rencontre du groupe de Cody. En nettoyant tout ce qu'il y a sur le passage. Problème, y a deux groupes, y a un groupe de clones sur le chemin qui commence à tirer sur ceux de Rex. Donc les mecs de Rex répliquent. Et sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'au bout d'une dizaine de morts, les mecs se rendent compte que c'est pas des autochtones, c'est bien des clones qu'il y a sous les casques. Et là, ils se rendent compte tous les deux. Les deux groupes se rendent compte qu'ils ont reçu la même information de Krell. Et là, c'est l'heure du match retour. Les clones vont tenter d'arrêter Krell, qui en fait a littéralement pété un câble. Mais c'est a priori, on le savait depuis le début. Hein. C'était écrit sur sa gueule que le mec, il n'était pas clair.
C'est clair.
Et le gars a tout simplement décidé que les clones, c'est pas bien, que la réponse que c'était de la merde et donc il a décidé, alors qu'il est pas séparatiste encore, mais il a juste décidé de foutre la merde dans la bataille d'Umbara pour montrer à Dooku qu'il en est un vrai qui croit en la cause séparatiste. Mais hélas pour le général, hein, ça va pas bien se passer parce que les clones lui à fond à l'envers, arrive à le capturer. Sauf que qu'est-ce qu'on fait d'un général Jedi psychopathe et qui casse les couilles et qui est responsable de la mort de la moitié des clones de la planète?
On lui met des menottes. Et du coup, ça...
on lui met des petites menottes.
Ça fait rire parce qu'il a quatre bras et on lui met des menottes. Alors, tu fais comment? Tu mets deux devant, deux derrière,
Ouais, c'est ça. Il est menotté. Non, il a les quatre bras dans le dos, il est menotté, il est mis en cage, en prison énergétique. Hein.
Mmh. Oh ouais.
Et sauf que les clones décident que le ch'ti pépère, là, qui a le bras, est bien trop dangereux. Mmh. Ils vont l'exécuter, le pépère. Sauf que y a un petit problème. Aucun des clones n'arrive à flinguer Krell. Si ce n'est, en dernier recours, le clone qu'on pourra surnommer Balai dans le cul, Règlement, hein.
Ah son nom c'est Dogma. Hein. Voilà.
Dogma.
Ils l'ont bien choisi.
Balai dans le cul, je trouve que c'est pas mal. Hein.
Qui finit par finalement tirer dans le dos du général parce que le général l'a trahi, l'a déçu. Et fin.
Ouais, je suis assez d'accord. Et fin. Ça manque.
Ah ben ça se termine. Ça se termine, mais vraiment à la mort de Krell.
Ah oui, mais quasiment.
Il n'y a pas de morale avec Anakin.
Enfin, si, il y a une morale. Il y a une petite morale. C'est intéressant. Il y a les clones qui évoquent le fait que quand la guerre sera terminée, qu'est-ce que eux ils deviendront.
ouais, mais ça c'est pas
une morale,
la... enfin,
ça
vraiment,
c'est plus
la...
des interactions sur leur futur. Il y a pas c'est de morale, c'est un jeu que... super sombre en fait. Hein.
Et c'est ça que je garde pour le côté final, c'est ça qui m'est retenu. Mm-hmm. C'est cette interrogation. Du coup, ils ont quand même quelque part trahi, même si on les a trahis avant. Mais voilà, ça demande quand même un petit peu sur le futur ce qu'ils vont pouvoir faire.
Ouais, moi je trouve que c'est plus, tu vois, les clones qui nous montrent qu'ils ont eu une âme, qu'ils ont le libre arbitre. Et justement, le fait qu'ils tuent à la fin générale, qu'ils décident de prendre ces décisions parce qu'effectivement, ce gars, il va pas bien, il faut faire quelque chose, ça montre que justement, ils ont leur libre arbitre. Et quelque part, quand on le replace, tu vois, dans le contexte et qu'on voit ce qui se passe par la suite, ce qu'on voit dans Rebels et tout, ça donne déjà un indice, justement, que certains vont prendre leur destin en main et s'en sortir par rapport au fameux ordre 66. Donc je trouve ça plutôt intéressant quand, bien sûr, t'as la suite, c'est sûr, à l'époque, on n'avait pas ça. Mais là, je trouve que dans le contexte, c'était plutôt pas mal.
Exactement.
Là, je te rejoins un peu avec une petite différence, c'est que là, c'est l'un de mes arcs, même si c'est vrai, il est super sombre, il est très triste, c'est l'un de mes arcs préférés de Clone Wars, justement parce que tu vois des clones qui sont traités par un Jedi uniquement comme de la chair à canon, alors que si tu fais le compte, même du côté d'Obi-Wan et d'Anakin, quand il y a des batailles, tu vois les clones qui crèvent par paquet de 12. Là, ils sont vraiment traités comme de la chair à canon et littéralement comme des numéros par un Jedi. Et tu vois les clones qui ne le supportent pas. Tu vois des clones qui, même s'ils respectent la hiérarchie et leur entraînement, leur embrigadement, qui se posent la question, qui vont finalement jusqu'à ne pas suivre les ordres, jusqu'à l'insubordination, jusqu'à tenter pour arrêter le général. Moi, j'aime beaucoup ça parce que justement, tu vois des clones réfléchir sur eux, sur leur truc. Je trouve que c'est un élément qui manque un peu peut-être dans l'épisode 3.
Ouais.
Même dans l'épisode 2 où on considère les clones, il y a très peu d'interactions avec les soldats clones, même de la part de B-1 ou d'Anakin. On les voit vraiment réfléchir, penser par eux-mêmes à justement ce qu'ils feront après la guerre, ou à voir qu'ils sont prêts à suivre des plans à la con totalement fous d'Anakin ou de B-1. Mais parce que ces deux mecs-là sont en première ligne avec eux, les considèrent comme des hommes et pas juste comme des clones, et que face à d'autres généraux de Jedi, ça se passe pas super bien. Et je trouve que c'est un truc qui manque par rapport, par exemple, justement au déclenchement de l'Ordre 66.
Ouais.
Je trouve que ça aurait été un truc intéressant de, par exemple, voir pendant le Conseil Jedi, un type comme Mace Windu, qui pour moi est l'un des pires Jedi de la trilogie, tellement il a un but de sa personne, tellement monsieur je sais tout, qui considère les clones un peu comme de la chair à canon, un autre que des numéros, et faire la différence par rapport avec un type comme Anakin ou peut-être Obi-Wan, quoi. Je pense que c'est un truc qui manque. Ça aurait pu montrer à un moment que t'es certains clones qui n'hésitent pas finalement à suivre les ordres de l'ordre 66, et d'autres qui disent non, parce qu'ils sont avec des bons généraux, des bons Jedi autour d'eux, et qui disent non, finalement non, ça part en sucette, je me tire, voilà.
Ouais, puis il y a peut-être un côté aussi, tu vois, ces clones croient peut-être en leur supérieur parce qu'ils partagent les mêmes idées ou autres. Parce qu'on voit dès qu'il y a un général dans cet épisode, tu vois, qui part en sucette, ils n'hésitent pas quand même à se rebeller. Mais après aussi, je trouve qu'on a, enfin, le rapport de ce général avec les clones, je trouve que ça rappelle pas mal un côté historique, parce que dans certaines guerres, t'avais par exemple, tu vois, genre pendant la guerre de sécession ou autre, on n'hésitait pas à utiliser des gens, tu vois, noirs, et ils étaient pas, ils avaient pas les mêmes droits que les autres soldats, ils avaient des trucs pourris, enfin, ils étaient mis en première ligne, il n'y avait pas vraiment de respect. Et c'est pareil, t'as même des Amérindiens qui ont été utilisés pendant la guerre, et c'est pareil, c'était la chair à canon en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment ce côté un peu historique, et je trouvais que c'est plutôt intéressant de le mettre en avant. Et de ce fait, voir que justement, ben, les personnes comme les clones qui sont super maltraitées et qui finalement nous prouvent ben, qu'ils ont une âme, qu'ils ont quelque chose et qu'ils ont le libre arbitre, je trouve ça intéressant. Et vraiment, moi, je les ai trouvés touchants. Enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus réussi dans cet épisode-là. C'est vraiment leur personnalité, leur réflexion. Il y a des fois, limite, je me suis dit, ah tiens, je me crois dans Matrix, parce que toutes ces réflexions sur justement, tu vois, le choix de, ben, soit de rester juste un robot et d'obéir aux ordres, ou le choix de partir sur autre chose. Enfin, t'as plein de thématiques comme ça que tu vois dans beaucoup d'œuvres de science-fiction. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, que c'était accessible, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des enfants qui regardent aussi Clone Wars, et je trouve que ça apporte une réflexion, ça peut faire interroger le plus jeune public, et c'est accessible. Après, bon, il y a d'autres défauts dans l'épisode au niveau de l'écriture, mais ça, peut-être, on peut en reparler un petit peu après, si vous voulez rester sur
parce que, en fait, ce que je voulais quand même signifier, c'est effectivement dans les retours de beaucoup de gens, notamment les Américains, il y a pas mal d'allusions avec la guerre du Vietnam.
Ouais, aussi.
Où c'était beaucoup comme ça, avancé en grosse ligne, dans un terrain inconnu, sans reconnaissance, alors que les autres étaient chez eux. Donc, ça, c'est effectivement le fait que ces Ombaras sont quand même chez eux. Et les Ombaras avec leurs casques et tout, c'est un truc qui me dérange dans l'épisode parce que c'est aussi un problème technique, mais du coup, ça renforce l'idée. Les clones sont plus différents entre eux que les Ombariens. Les Ombariens sont dans la même tenue, avec la même tête, au niveau de la modélisation. Alors que les clones, eux, sont différents. Alors qu'ils sont censés être les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Donc je trouve que ça, c'est techniquement, c'est intéressant. Et par rapport au libre-arbitre, je trouve que c'est très intéressant aussi qu'à la fin, ce soit Dogma qui tire sur Krell, alors que lui-même était avec des menottes, normalement, puisqu'il était mis aux arrêts, puisque justement...
Oui, il était mis aux arrêts.
Il a été mis aux arrêts parce qu'il voulait trop respecter les ordres, donc il n'aurait pas suivi la mutinerie. Quelque part. Mais il le tue, Krell, pour respecter les ordres, puisque en fait, il considère que Krell est un traître. Donc les traîtres, faut les abattre. Donc au final, il n'est pas libre non plus de lui.
Non, il abat Krell parce que c'est un traître.
Ouais.
Mais parce qu'il l'a déçu aussi.
Et principalement parce qu'il l'a déçu, et il l'a. C'est le seul. Dogma, ouais. Tu disais, c'est le dogme, c'est vraiment, c'est tellement cliché ce truc. Ah ben c'est oui. C'est parce que Dogma suivait le dogme des clones, et donc qui ont une confiance absolue, qui doivent avoir une confiance quasi absolue envers le Jedi, et que le Jedi a fait de la merde et a trahi tous les clones. C'est pour ça que Dogma le tue.
C'est ça, mais je trouve que c'est vachement intéressant.
Parce qu'il a suivi.
Non, mais c'est intéressant
ce que
tu dis.
C'est à la fois intéressant, mais c'est quand même ultra simple. Justement, par le fait que ce soit le clone qui s'appelle Dogma Dog qui flingue le traître. C'est. Mais... Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir l'évolution de clone. Parce que Rex, au départ, suit les ordres, même s'il suit les ordres à la lettre, même s'il essaye de donner son point de vue et de faire fléchir Krell, alors que Five, dès le premier ordre de merde, te dit non mais ça va pas la tête, et le groupe, les autres groupes des autres clones qu'on suit, donc Dogma, Hard, machin chouette, mitrailleuse lourde, tout pareil, ils ont tous chacun une évolution qui va du arc trooper qui dit ton ordre c'est de la merde, à Dogma qui dit l'ordre c'est de la merde mais c'est l'ordre, je vais le suivre.
Et pour aller dans le de ce que tu es en train de dire, en fait Rex, parce qu'il y a un peloton d'exécution, hein, on l'a plus ou moins dit pendant le résumé, le peloton d'exécution pendant qu'ils doivent tirer dessus, Rex n'intervient pas. C'est Five, alors qu'il est condamné, qui fait un discours, et les clones font exprès de louper. Et c'est pas Rex qui a fait quelque chose à ce moment-là. C'est bien le groupe qui a réagi. Donc, c'est à ce moment-là vraiment que la mutinerie se lance, quoi.
Et moi, je voulais rajouter, au niveau de ce que j'ai noté, tu parlais du Vietnam, de l'horreur de la guerre, et je trouve qu'au niveau de la réalisation de l'épisode, les batailles, les couleurs et tout, c'est vraiment montré comme quelque chose de cauchemardesque, et il y a même des fois des plans où on dirait que c'est filmé caméra à l'épaule, et j'ai pas mal pensé au soldat Ryan de Steven Spielberg, j'ai pensé un peu à Apocalypse Now aussi,
le débarquement.
Ouais, débarquement.
La première vague dans le premier épisode, quand les clones débarquent au sol, Tu as plusieurs fois où la navette, la navette qui se fait abattre en plein ciel, ou le premier soldat qui pose le pied par terre se fait abattre.
Ah ouais, donc
tu l'as plusieurs fois.
C'est ça, du coup, t'as ce coup.
Et c'est typiquement, il faut sauver le soldat Ryan, quoi, ou le film de guerre sur le Vietnam, où le premier mec qui pose le pied par terre meurt.
Mais je disais, du coup,
toi, c'était pas mal comme ça.
Bah ouais, et du coup, ce côté cauchemar et tout, ça agit aussi sur la psychologie de ces clones. Et je trouve que le fait que Dogma, à la fin, pète un cap, c'est que le gars, il a voulu se rattacher au fait que, bah oui, c'était son général, il est censé réussir les missions, mener les hommes, faire des choses. Tu vois, je veux dire, de façon consciente, réfléchie, et à la fin de voir que finalement tout ce à quoi il s'est raccroché, ben en fait, le gars, j'allais dire un gros mot, mais je veux dire, il a pissé dessus, on va dire, et ben du coup, là, c'est le désespoir qui parle, et oui, il prend le flingue et il le tue. C'est un acte de colère et de désespoir, et je trouve que tout l'épisode, finalement, ça prépare bien à cette scène de fin. Donc ça, c'est encore une fois une chose qui est plutôt bien faite. Ce qui est mal fait pour moi, c'est vraiment toute l'écriture au niveau de ce fameux général, parce que vraiment, à peine tu le vois sans qu'il parle, tu sais que c'est une pourriture. Donc,
C'est général psychopathe, comme tu disais. Moi, c'est même pas... Il y a plusieurs points qui m'enquiquinent dans cet arc. Le premier, c'est justement concernant le général. Comment un type pareil peut encore être Jedi? C'est quand tu vois justement le conseil qui pète un câble dès qu'Anakin pète trop fort.
Mais oui.
Ce mec-là, a priori un taux de mort des clones, un taux de mort qui est totalement aberrant, et que même son comportement, qui est aucun clone qui l'est remplacé, c'est aussi un point qui me gêne.
Mais c'est ça, moi je trouve ça complètement idiot. Et
que Rex, on te dit en gros, au-dessus du général, enfin le général, il n'y a personne d'autre. Que Rex n'est pas un moyen de contacter Anakin, je trouve ça aberrant.
Bah après, ils disent que les communications sont brouillées, quoi. Enfin, il y a une histoire comme ça.
Ouais, est-ce que Krell, il a bidouillé l'antenne, du coup, ils ne peuvent pas capter correctement.
Mais du coup, moi, je me suis fait une réflexion sur laquelle je me dis, est-ce que... Parce qu'il vient en disant, oui, il y a Papatine qui te rappelle et tout, mais est-ce que c'est vrai? Je veux dire, ça se trouve peut-être qu'Anakin, quand il est arrivé, le gars, il lui a dit, ah bah non, je t'ai pas du tout dit de revenir et tout. Enfin, peut-être que tu vois, il...
Non, ça, je pense que c'est
vrai.
Alors,
c'est encore plus débile, en fait.
Ce que je comprends du dernier épisode et de ce que dit Krell, c'est que il avait prévu de faire sécession. Oui. Et c'est parce qu'on l'a envoyé sur Mbara que c'est là qu'il fait sécession. Que Anakin soit rappelé, oui. Mm-hmm. Est-ce que peut-être que Palpatine avait senti que l'autre il commençait à vriller, donc il s'est dit, bah tiens,
ça c'est possible, ça
je vais l'amener là-bas.
Palpatine est partout. Il est partout. Moi je vous le dis.
Mais pour en revenir au contact entre Rex et Anakin, déjà ça je trouve ça bizarre. Que même s'il n'arrive pas à contacter Anakin, qu'il n'arrive pas à contacter Obi-Wan, je trouve ça fort de café. Qu'ils aient bloqué le communicateur de la tour de contrôle, je veux bien que Rex n'ait pas son propre matos bidouillé par Anakin pour pouvoir se connecter, pouvoir contacter quelqu'un d'autre. Se contacter même à l'autre bout de la galaxie, je commence déjà à tiquer. Mais même que j'ai l'impression en fait qu'ils ont oublié qu'il y a le reste de la chaîne de commandement.
Oui, non, mais.
Que si un général fait de la merde, moi je veux bien qu'il ait un taux de mort aberrant, effrayant même, mais les autres, les commandants clones, les survivants, ils ont pas, il y a des rapports dans
et
l'armée.
Et puis même, regarde, souvent, t'as Obi-Wan et Anakin, ils sont souvent ensemble, donc pourquoi ce général Krell, il serait tout seul, il n'y avait pas un autre Jedi avec lui, quand ils discutent, je sais pas, moi, au café de Jedi, il dit pas, ouais, ces saloperies de clones, je les ai butés et tout, il n'y a pas quelqu'un qui a été choqué, en mode, ouais, il est super raciste des clones, enfin, je sais pas, et puis Yoda, il est censé sentir des trucs, des fois, ils sont super loin quand Anakin fait une bêtise, et là, il se dit pas, oh là, lui, il va pas bien, enfin, même quand il le rencontre, il sent pas un truc,
ouais, totalement en train de vriller, et personne ne le sent, personne ne le voit, et ceux qui le voient ne le disent pas, c'est ça. Et même pour revenir à Five, qui est un arc-trooper, a priori, je me rappelle plus bien si dans la série c'est comme ça, mais dans les comics et dans les arc-troopers font ce qu'ils veulent. Ils sont c'est des super commandos. En gros, ils ne reçoivent d'ordre de personne. On leur dit juste, alors faudrait flinguer ce mec-là, et il se débrouille pour le faire à sa sauce. Là, on a l'impression que le arc trooper, donc Five, il est bloqué et il ne fait que suivre les ordres. Je trouve ça bizarre.
Exactement. Et puis même, il y a des fois où il me semble qu'il y a des fois les clones, ils parlent à Obi-Wan vite fait alors qu'il n'y a pas Krell à côté. Et pourquoi est-ce qu'ils disent pas direct le gars, il va pas bien là, il nous propose de faire des trucs mais ça va pas et tout. Enfin, essayer justement de le dénoncer, parce que quand t'es dans l'armée, quand tu vois que la personne qui te commande ça va pas et que tu fais une mutinerie, tu la mets aux arrêts, tu mets une autre personne à sa place et tu contactes
J'ai l'impression qu'ils ont isolé en fait virtuellement toute la 501.
Oui.
Et que
complètement.
Et ça fait bizarre. Moi, je trouve ça assez bizarre en fait dans cet épisode.
Je pense que Rex
ne puisse pas tirer un signal de détresse vers Anakin, vers Obi-Wan. Vu leur relation, ça me paraît.
Mais oui, c'est super mal construit cet épisode.
Non, mais je pense que là, de toute façon, on est dans le voilà. Mais c'est le. C'est un problème de scénario, mais pour pouvoir amener autre part, en fait, je pense que l'intérêt, il est pas là. Il est de montrer l'horreur de la guerre, le fait d'avoir des hiérarchies sur lesquelles on peut compter ou on ne peut pas compter. Est-ce qu'on peut se plaindre de ces hiérarchies ? Ce serait intéressant peut-être d'avoir des commentaires de militaires, parce que j'en ai pas trouvé particulièrement. Peut-être que dans nos auditeurs, il y en a, qui ont fait l'armée ou qui ont fait leur service militaire. Savoir si, effectivement, c'était possible de se plaindre de la hiérarchie. Moi, je sais que j'ai pas fait l'armée, mais même dans mon entreprise, des fois, il y a d'autres chefs de service et n'importe quoi. Si je trouve qu'ils font des trucs qui vont pas, je vais quand même pas forcément aller, moi, me remettre un porte-à-faux à dénoncer des choses, parce que derrière, tu vas te reprendre des coups de bâton pour autre chose. Tu vois, c'est quand même compliqué. Donc je pense que cet épisode-là, il est aussi pour montrer les choses. Donc il faut pas forcément chercher des ficelles scénaristiques sur pourquoi on en est là. C'est pas très très important dans le truc. Ce qui est important, ce qui est développé sur l'attitude des clones, l'attitude de Krell, ce genre de choses.
Ouais, mais tu vois, t'as beaucoup de longueur dans l'épisode et puis des choses que tu t'attends parce que c'est mal écrit. Et je trouve qu'ils auraient concentré ça et essayé vraiment de rester sur du cauchemar en continu et tout. Enfin, ça aurait donné plus de force, je trouve, aux clones, encore plus. Et le méchant aurait été peut-être plus intéressant, je sais pas. Là, ça fait tellement cliché que du coup, franchement, moi, dès qu'il essaie de muter là, au bout d'un moment, c'est assez bon, je sais ce que tu vas dire. Allez hop.
Bah, je crois que c'est à la fin, peut-être dans l'épisode 2, où là, ils ont, dire le cliché, ils font un zoom sur les yeux de Krell. Ouais. T'as les reflets des flammes.
Ah oui, c'est à la fin du 2 ou du 3, je crois.
C'est cliché au possible.
Et on s'attend presque à voir des yeux de Sith à ce moment-là.
Ouais, ouais, exactement.
C'est ça, ouais. Mais quasiment dès son introduction, en fait. C'est le mec qui est présenté très...
Ouais, il arrive, il fait la tronche.
Totalement. Voilà.
Et là, je pense que c'est peut-être là où on retrouve quand même que Clone Wars, c'est pas fait que pour les enfants, mais c'est quand même aussi un peu pour les enfants. Au moins, les méchants, ils sont bien étiqueté, même si on nous le présente comme étant quelqu'un du côté des gentils, tout de suite, tu sais tout de suite que tu vas pas t'attacher à lui, lui il va trahir, c'est un salaud, tout ça.
Ouais, mais tu vois, c'est dommage de prendre des gosses pour des idiots, ils sont pas bêtes. Enfin, c'est pas à peine de leur marcher le travail, ils peuvent réfléchir. Hein. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui m'énerve.
Et bon, c'est un épisode de 2011.
Mais même maintenant, t'as des séries. L'autre fois, on parlait de Résistance, c'est pareil. Enfin, Résistance, les gamins, ils sont pas idiots. On peut leur faire des choses avec un peu de réflexion et d'intelligence, tout en étant divertissante. Enfin, c'est dommage. Tu vois, là, je repars sur l'épisode de Clone Wars, mais il y a des choses qui sont super intéressantes, qui sont très noires et tout. Et puis, ça vient casser tout ça, justement, avec des scènes parfois inutiles. Avec bah ouais, des petites maladresses d'écriture, et c'est dommage parce qu'on pourrait avoir un truc vraiment marquant, prenant, et il double le coche. Quoi. Je suis un peu triste en fait.
Je suis d'accord. Il y a un truc, moi, dans le rythme de l'arc qui me dérange un petit peu. Mm-hmm. C'est un peu ce côté forcé du fait qu'il y a vu qu'il y a 4 épisodes, il faut qu'il y ait des rebondissements, et puis il y a d'autres moments plus lents. Alors que si on avait pris. Parce que j'adore le concept de l'épisode, hein, ça je crois même, je vais le redire à chaque fois, mais le concept est génial, la réalisation. Manque de certains petits points. Ce qui est dommage parce que sinon j'aurais donné vraiment une super note. Et le fait que c'est des épisodes, alors que ça aurait été un film, on l'aurait tourné totalement différent. Totalement différemment. Donc, il y a
ouais,
le format fait que.
C'est 4 fois 20 minutes, et ouais. Alors que tu faisais un seul tenant de 50 minutes, tu le fais différemment. Là,
tu l'aurais pas fait comme ça, ouais.
Ouais. Chaque épisode a son rebondissement au milieu. C'est toujours la même structure dès l'apparition de Krell. C'est les ordres trash de Krell. Five et Rex qui mettent en doute le truc. Ils se font engueuler. Ils y vont quand même. Ils se font démonter la gueule. Il y a quelques clones qui disaient on va faire ça pour se sortir de la merde. Tu repasses sur Krell qui s'aperçoit que les clones font pas ce qu'ils veulent et qui se met à gueuler. C'est ça pendant sur deux épisodes quoi.
C'est ça.
Non mais ils auraient fait ça en 3 épisodes ou même en 2, ça aurait été top je pense. Hein.
Ouais, je pense qu'ils ont voulu prendre la longueur pour marquer un petit peu les esprits, ce qui a marché. Mais voilà, dans la réelle, le format bloque un peu. Ouais, parce que notamment je pense à l'annonce qu'on a eue sur Obi-Wan qui aurait une série ou un film. Bah pour le coup, je préfère que. Et oui, mais n'empêche, je donne mon petit avis. Je préfère du coup le format série. C'est pas grave, je peux couper Sylvain au montage si j'ai envie. non, mais je pense que le format série sur Obi-Wan va être plus appréciable. On va pouvoir plus prendre le temps que sur un film où ça aurait été un peu rusher.
Ah oui, ouais, c'est 6 épisodes d'Obi-Wan qui fait brûler des marshmallows à un feu de camp. Ça va être somptueux.
Ça va être super sympa.
Non, mais pourquoi pas, je sais pas, moi, Obi-Wan Kenobi contre un syndicat du crime, j'en sais rien, moi. Ou Obi-Wan mène des enquêtes, moi, je sais pas, genre, tu vois, tu fais Arabesque, mais avec Obi-Wan Kenobi, ça marche très bien. Faut bien l'occuper,
alors, pour revenir un peu au sujet, parce que là, on est en train de partir.
Oui, pardon. Alors, les clones.
Parce que je vais m'énerver, surtout.
Ouais, mais n'empêche.
Je vais gueuler dessus.
J'ai vraiment apprécié dans cet épisode le fait aussi qu'on ne s'attarde pas trop sur Anakin et Obi-Wan.
Ah oui, ça fait du bien.
Ils n'étaient pas là pour sauver la situation ou pour. Alors, même si c'est toujours les mêmes clones, mais c'est normal, il faut quand même qu'on s'attache à des gens. Là, ils se débrouillent d'eux-mêmes. Obi-Wan, il est à peine là. Anakin, il n'est pas du tout, quasiment. Et ça, c'est.
Ouais, mais ils ont le temps au début quand même de faire leur tandem de choc, leur faire leur petit spectacle. Ça marche pas leur blague, je te jure, à chaque fois je me tape la tête tellement ça me saoule. Je comprends pas ce duo comique en fait, ça fonctionne pas du tout.
Mais c'est pas le même que dans les films en plus, je trouve, il y a un petit décalage.
Mais dans les films ça fonctionne pas non plus, je suis désolée. Ouais. J'ai du mal
sur le film. Je parle sur le 3 surtout.
Ah oui, non mais. Le 3, non mais c'est trop, ne me lance pas dessus.
Non, on va pas.
T'inquiète.
On a assez de.
Ouais, non, mais du coup, c'est vrai que. Mais du coup, c'est vrai que c'est rafraîchissant de ne pas les avoir, d'explorer d'autres aspects de l'univers, de découvrir un peu plus ces clones, de voir qu'ils ont chacun leur personnalité. Enfin, j'aime beaucoup. Il y avait un autre épisode avec les clones qui était sympa, où justement, tu voyais des clones qui étaient pas. Enfin, il y avait un clone qui était pas parfait, qui était rejeté par les autres. Enfin, il y avait toute une histoire autour de ça.
C'est pendant l'arc sur Kamino avec les recrues achetées.
Et j'avais trouvé cet épisode super. Ouais. Il était dramatique, enfin, il m'avait beaucoup touché cet épisode.
Mais dans la dans The Clone Wars, c'est vraiment les épisodes centrés sur les clones qui me plaisent le plus. Ceux sur Ahsoka me tapent sur le système, en tout cas au début de la série, moins sur
après,
la
ça
fin,
s'améliore.
Parce qu'elle avait changé de comportement, elle était moins casse, moins casse-couille, moins peste, moins peste, moins chieuse. Voilà, oui, c'est les épisodes sur les clones m'ont toujours eu ma préférence là-dessus. Et vraiment, cet arc, malgré ses défauts, là-bas, je les ai revus tous les quatre il n'y a pas deux jours, là, pour préparer le podcast. C'est vraiment un truc, une ambiance vraiment crépusculaire. Tu vois, les réflexions, même surtout le débarquement justement des clones qui est en mode il faut sauver le Ryan, comme on disait, avec le premier qui descend du gunship qui se fait flinguer, les canyonnières qui sont exposées en vol, les tirs de blaster dans tous les coins, et tu vois pas, tu vois juste les traits de blaster et tu vois pas sur qui tu tires en fait.
Ouais.
C'est vraiment un truc particulier, et même des. Et je crois que si je dis pas de bêtises, en fait, l'épisode se termine sur Rex, Five et d'autres clones en armure, en mode qui se déplacent un peu comme quand Anakin attaque le temple dans l'épisode 3, quoi.
Il y a un plan comme ça
où ils montent pas des escaliers, mais ils sont tous en ligne et ils avancent comme ça. Et je trouve que c'est vraiment les parties que j'aime le plus dans cet arc-là.
Alors, tant que là, t'es sur une référence, je vais citer les autres références au film que j'avais trouvées rigolotes. Il y a quand même le coup de l'intercom, dire « Non, mais on a juste un petit pépin de pistolet laser. »
Ah oui, oui. C'est trop
voilà,
bien, ça.
Voilà, style Han Solo dans l'Étoile Noire. Et il y a aussi ce magnifique coup de quand ils font la rébellion, enfin, la révolte... sur Krell. Krell se retourne vers eux et il fait « C'est de la trahison, alors !»
comme Palpatine.
Ça, c'est quand même marrant. Donc, pour rappel, pour au niveau des dates, l'épisode 3 est bien sorti avant cet épisode. Mmh. Donc, du coup, ils peuvent faire des références à l'épisode 3.
Juste pour revenir sur les clones, je veux dire, ce que je trouve aussi intéressant dans les clones, enfin moi ce qui m'a intéressé, c'est que, tu vois, ils ont beau avoir tous le même matériel génétique de base, on se rend compte que finalement, pour construire une personnalité, bah, ça vient aussi des expériences qu'on fait, des blessures, des peurs qu'on a eues, des choses qu'on a apprises. Et c'est vrai que, bah, justement, les clones, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que moi, au début, je me disais, mais ils vont tous être pareils, ils doivent pas avoir de cerveau, enfin, ça doit être des machines et tout. Et c'est vrai que plus tu regardes la série, bah, plus tu vois que, justement, ils apprennent de tout ce qui leur arrive. Et je trouve ça intéressant, parce que quand on parle, tu vois, du mal qui peut être inné, ou des choses comme ça, enfin, des fois, t'as des terminologies comme ça qui reviennent dans l'univers Star Wars, bah, il suffit de voir les clones pour voir que non, c'est eux qui choisissent, de par leur savoir et leur expérience, ce qu'ils ont envie d'être. Et ça, je trouve ça super intéressant.
Ouais, mais peut-être qu'il y avait une cuve qui avait une fuite. Hein. C'est pour ça que lui, il est différent.
Ouais, c'est ce qu'il a. C'est
une blague de...
Comment il s'appelle, ce con Hard... Hardballer, je crois, non
c'est... Ah, je l'ai pas non plus.
C'est lui qui a la grosse sulfato, justement. Il dit qu'il explique qu'il est hyperactif et qu'il tire dans tous les coins. Parce que, justement, sa cuve avait une fuite. C'est un truc qui m'éclate, ça. Comme blague à la con, non, mais je suis un peu différent parce que mon instructeur disait que j'avais une fuite dans ma cuve. Ah, ok, d'accord.
Ouais, ça explique tout. Non, puis on n'a pas mentionné non plus quand même le sacrifice d'un des clones pour sauver ses frères. Quand ils vont péter le vaisseau, comme dans l'épisode 1, puisque le général Skywalker lui a dit qu'il avait fait comme ça pour péter un vaisseau séparatiste de la Fédération du Commerce. Il prend le missile à la main et il y va directement et puis il dit aux autres de vivre encore une autre journée. C'est quand même
c'est beau.
Beau moment d'émotion. C'est cool. Est-ce que vous avez d'autres... Ah non, Ombara, parlons un petit peu de cette planète Ombara avant de clore sur cet épisode.
Ouais.
Est-ce que vous vous rappelez déjà que dans la saison 2 de Clone Wars, en fait, on nous parlait déjà des Ombariens. Il y avait un sénateur qui était assassiné.
Ah,
du coup,
oui.
C'est pour ça aussi qu'ils deviennent des séparatistes. Avec Padmé et tout ça. Mmh. Donc voilà. Et on voit un Ombarien. à une ombarienne dans le film, notamment l'épisode 3, puisque c'est celle qui se tient à gauche de Palpatine, sur le... au Sénat. C'est aussi une ombarienne. Et alors, pourquoi ils ont des casques ? Parce que je vous avais dit que j'allais vous le dire.
Oui.
En fait, c'est parce que du coup, leur planète, vu qu'elle est quasiment sans soleil, c'est pour ça qu'ils sont le peuple de l'ombre. Mais pas, ils peuvent pas se rendre invisibles, c'est une légende. Mais du coup, ils ont la peau très pâle, ils peuvent voir dans l'ultraviolet, et ils sont pas réputés spécialement pour leur force physique. Donc ils portent des armures qui, avec un gaz qui les rend plus forts et plus agressifs. Donc l'atmosphère est respirable, mais eux, pour combattre, il faut qu'ils aient leur magnifique petit casque.
D'accord, donc ils se dopent, quoi, voilà. L'explication, ouais, c'est des drogués.
C'est ça. C'est des dopés.
Ils ont bien fait tous les massacrer.
Mais la planète, mais en tout cas, elle est sympa. Il y a des créatures...
Ils ont des superbes, ouais, ils ont des superbes, ouais, technologies inspirées de leurs créatures, et des centipèdes et tout, qu'on n'a pas évoqué, qui, je trouve, fait pas tout à fait Star Wars, mais au final, il y a quand même pas mal d'ingéniosité à l'intérieur, donc je trouve, ouais, ça plutôt sympa.
Moi, j'aime bien la créature avec les tentacules, ça me rappelle un peu le gardien qui a
le
devant
Sarlacc.
L'entrée du... Non, le... ouais, aussi, mais je pensais au gardien qui a devant l'entrée des mines de la Moria, tu sais, avec plein de tentacules et tout, là, qui veut les attraper. Je sais pas si vous voyez la scène dans Le Seigneur des Anneaux.
Oui, oui.
Du coup, voilà, je fais plein de relations, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses.
Ouais, l'ouverture de la gueule de la créature, ça m'a surtout fait penser à à l'œil robot sur la porte de Jabba, en fait. Si tu regardes, c'est la même façon d'ouvrir l'œil et d'ouvrir la gueule qu'il fait. Okay. C'est à ça que ça m'a fait penser. Et puis, ça me fait penser aussi que c'est un mini Sarlacc, en fait.
Oui, c'est ça, c'est un Sarlacc, moi, je trouve aussi. Et d'ailleurs, il y a eu quand même une préparation paiement de ce truc-là. Ils nous le mettent dans le premier épisode, tu te demandes un peu ce qu'il fait là, c'est une péripétie en plus. Et il sert pour capturer Krell dans le quatrième épisode. Plutôt sympathique de nous l'avoir présenté avant.
J'ai pas fait gaffe.
Mais ça revient plusieurs fois, non, pendant les batailles, il me semble.
Ça revient même plusieurs fois dans les batailles. Ouais. Ils sont toujours un peu par là, mais ils retombent pas dedans, on va dire. Et par contre, c'est à la fin, ça sert à capturer Krell, parce que sinon, ils n'auraient jamais réussi à l'attraper. Il est beaucoup trop fort pour eux.
Bah sinon, non, je veux dire qu'il fallait filer un truc empoisonné, mais il n'aurait pas mangé. Parce que c'est les clones qui l'auraient fait, donc ça n'aurait pas été bon. Donc je cherchais des plans. Voilà, non, mais je cherche des plans, moi, tout le temps.
T'aurais pris un petit steak de basilic. Parce que c'est un basilic. Voilà. J'ai retrouvé la race.
Je sais pas si c'est mangeable.
Je sais pas. Peut-être que... dans un certain diner, si on peut en manger. Il ne va pas manger sa propre race. Je dis vraiment n'importe quoi.
Bah, tu sais pas s'il est un peu, je sais pas, je vais dire cannibale, mais non, mais... Ouais, s'il est un peu déviant.
On dit anthropophage, du coup. Ouais. Non, on dit pas anthropophage, c'est pour les deux.
Je sais pas.
Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à raconter sur cet épisode ?
Je regarde...
On a fait le tour.
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais,
on a
fait le tour. Alors, du coup, est-ce que... en commençant peut-être par Sylvain, peut-être donner un... petite note.
Je vais donner une note pour l'arc complet.
Oui, oui, en arc complet, en arc complet. Hein.
Allez, je mettrai un 7,5, 8.
Donc sur 10.
Ouais, 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 sur 10.
Ok.
Ah, sur 10.
Ok.
Compliqué.
Ça fait aux alentours de 16. Fail.
Où
tu vas mettre un petit commentaire en plus, Sylvain, ou tu restes sur ta note?
Bah, je vous dis, je l'aime plus pour l'ambiance... pour l'histoire en elle-même, quoi. C'est vraiment une ambiance crépusculaire avec les clones en personnages principaux, malgré ses gros défauts, comme tu fais un débarquement sur une planète d'ombre en mode furtif, mais t'accroches deux putains de projecteurs de 4000 watts à chacune de tes navettes.
C'est vrai.
Bah, je sais pas, il a peut-être envie de mourir. Hein.
Ah, mais c'est un truc que j'ai jamais compris. On te dit que les casques des clones, ils ont un système de vision nocturne, ils ont tout plein de trucs. Et dans toutes les séries, ils t'ont rajouté des putains de lampes torches sur les casques.
C'est vrai que c'est un peu...
Je sais pas, ça coûtait peut-être moins cher.
C'est... On n'arrête pas de te dire dans les comics, dans les séries, dans les bouquins que les casques et les armures, elles ont plein de technologies, dont des lunettes de vision nocturne et on te fout des lampes torches aux flingues ou sur les casques ou sur les... Rien à battre.
C'est, ah ouais, mais regarde, la planète, elle est super sombre. S'ils n'ont pas de lumière, nous, spectateurs, on ne verra rien. Ou alors, il faudrait tout faire en vision nocturne. Mais au bout d'un moment, ça peut fatiguer.
Mais non, finalement. mais c'est pas ça. Même si tout se passe sur un univers sombre, c'est visible. T'as les planètes qui éclairent en rouge, t'as les plantes qui éclairent en rouge. Là, je te parle, t'as un débarquement de troupes si on a des auditeurs militaires, je veux bien qu'ils me disent s'ils ont déjà participé à un exercice comme ça de nuit, ils doivent débarquer quelque part, s'ils allument les lampes des hélicos, des avions, de tous les véhicules. Très bien. Je serais étonné s'il y en a un qui me dit « Ouais, oui, de nuit, en débarquement, on allume tout, les tanks, les hélicos, on met des grosses potes sous nos hélicos pour savoir où on va. » Non.
Après, c'est peut-être une critique de l'armée américaine, tu vois, genre les gros bourrins qui arrivent. Moi, je sais pas, je cherche trop les explications.
Ah, je pense qu'il y a de ça. Attends, alors moi, j'ai une explication hyper tirée par les cheveux, mais qui contient des informations Star Wars. Les habitants d'Ondara peuvent voir les ultraviolets et les Kaminoens peuvent voir aussi les ultraviolets et apparemment il y aurait des traces de peinture non visibles par les humains sur les armures. Donc du coup, les Ondariens auraient de toute façon pu voir les armures dans le noir. Mieux que les Ondariens se fassent voir.
Ah, bah alors ils voulaient aveugler les Ondariens alors. Genre, tu vois, si tu mets de la lumière, tu vois plus, c'est comme quand tu mets de la lumière... sur quelqu'un qui a un truc de visée nocturne, ça l'aveugle. Donc c'est peut-être ça qu'il voulait faire, je sais pas. Hein.
Non, je pense pas, mais tu sais, des fois, déjà, on fait dire sur Andor, les mecs, ils sont habillés en blanc dans une planète qui est recouverte de végétation, donc c'est vachement vert, donc on les voit vachement bien. Là, c'est une planète nocturne, donc on pourrait dire, au moins, il sera un peu caché. Bah non, les Ondariens, ils les voient dans le noir. Je trouve que c'est quand même un peu con. Ouais, mais ça me fait marrer.
Bah, faut bien qu'on rie un peu, hein.
C'est ça. Alors, Faye, dis-nous combien tu notes cet épisode.
Bon, bah, moi, j'y mettrais un 12, vraiment pour les clones et la réalisation au niveau de certaines scènes de baston. Sinon, après, il y a trop de longueur, le Krell, il est trop mal écrit. Enfin, voilà, plein de choses qui vont pas dans l'épisode.
Ok. Et moi, je suis assez d'accord avec vos commentaires. Il y avait donc cet aspect qui faisait pas tout à fait Star Wars qui me dérangeait, mais de temps en temps il y avait des points très Star Wars, notamment les références au film. Donc ça m'a bien plu, je trouve que l'idée est géniale, la réalisation pêche un peu, mais au final quand on se souvient de l'épisode, eh bien c'est un épisode qui est vachement marquant, qui est vachement intéressant, et qu'il faut avoir vu, je trouve. En plus, il y a des races qu'on voit peu, des technologies qu'on voit peu. Le Bézalik notamment, on a jour 2 dans tout l'univers, alors que c'est une race vachement sympa avec 4 bras. Donc je vais mettre 15, et donc du coup ça ferait une moyenne dans les 14. 14-15.
Ça, c'est pas mal.
C'est plutôt une bonne moyenne. Et je vous incite donc, si vous ne l'avez pas vu, dommage vous avez écouté notre épisode, mais du coup allez voir cet épisode, qui était très intéressant, quand même.
Ouais, surtout si on veut découvrir les clones, c'est pas mal.
Non, mais de toute façon, on est d'accord, hein, les passages les plus intéressants de Clone Wars, c'est quand même les clones. Ça tombe bien, c'est quand même dans le titre.
En effet.
Voilà, alors, du coup, on remercie les auditeurs et nos partenaires Made in Block, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science Fiction, et le Space Trash Show. Sylvain et Faye, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Commençons par Sylvain.
Sur les réseaux sociaux, via Twitter, Sylvain Gamma Live, sur le Discord maintenant, vous laissez des messages. Il y aura dessus si vous dites que la série Obi-Wan c'est une bonne idée. Mais voilà, si vous voulez savoir ce que j'en pense, c'est dedans.
Voilà, et Faye.
Mais si, il y a Emilia Clarke quand même, tu vas regarder. Moi sinon, si vous voulez me retrouver, les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye, voilà, vous pouvez me joindre par là. Sinon sur Twitter, si vous voulez vraiment me trouver, vous pouvez utiliser mon Twitter, c'est Faye Fanel, et voilà, sinon Discord.
Voilà, et moi ce sera pareil, les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Discord du coup maintenant également, pour nous rejoindre et retrouver toutes les infos. Donc, ben, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et à bientôt pour un autre spin-off Clone Wars.